Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce soir de 18h30 à 20h, aux côtés de Nicolas Poincaré, Franck Ferrand sera en direct de la place du Panthéon. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. C'est en effet une édition spéciale d'Europe Soir que nous vous présenterons en présence de jeunes de 14 à 20 ans. Alors j'essaierai de répondre à leurs questions. L'entrée au Panthéon de Jean Zay, auquel nous avons consacré une émission la semaine dernière, de Germaine Tillon, de Geneviève de Gaulle-Antonioz et de Pierre Brossolette, s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance.
Et en ce début d'après-midi, c'est un tout autre sujet que nous abordons. Nicolas Chaudin vient de faire paraître un récit historique chez Actes Sud intitulé « Le brasier, le Louvre, incendié par la Commune ».
Oui, et j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. C'est un ouvrage très bien construit, très enlevé, et qui aborde un aspect souvent négligé de la Commune. Nicolas Chaudin met tout ça en évidence, ces incendies de monuments pendant la semaine sanglante. Avant d'évoquer avec l'auteur ce terrible épisode, je vous propose de vous raconter à grands traits cette expérience révolutionnaire qu'on appelle la Commune.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Michel sur les origines du spectre royal.
Alors j'élargirai un peu, j'en profiterai pour vous parler des autres régalias. Pour le moment, cap à l'opposé, si je puis dire, sur la plus radicale des révolutions.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La Commune, évidemment, est le fruit du conflit de 1870. Vous savez qu'il y a eu cette guerre entre la France et la Prusse qui s'est terminée de façon catastrophique, l'effondrement de l'armée française à Sedan au tout début de septembre 1870, et puis les Prussiens qui continuent d'avancer à travers la France et qui viennent mettre le siège sous les murs de Paris. Ça va durer longtemps, ce siège. C'est un siège d'une grande dureté sur lequel nous avons eu l'occasion de revenir déjà un certain nombre de fois. Et les premiers accords de paix sont signés le 26 février. Il y a un armistice qui a été signé par Jules Favre au nom du gouvernement de défense nationale, signé avec le chancelier Bismarck. Et évidemment, les Prussiens, qui sont devenus entre-temps les Allemands, puisqu'on a prononcé le 18 janvier l'unité de l'Empire allemand, les Allemands réclament que l'armistice soit ratifié donc par une assemblée. D'où ces élections législatives de février 1871, d'où des urnes de ces législatives va sortir une majorité clairement conservatrice qui nomme un chef du pouvoir exécutif. On ne parle pas d'un président de la République, hein, on fait bien attention au terme qu'on emploie. Ce chef de l'exécutif, c'est Adolphe Thiers, représentant, ancien premier ministre président du Conseil de Louis-Philippe et représentant d'un certain libéralisme conservateur. Il y a là deux France, si vous voulez. Vous avez d'un côté tous les bourgeois et puis une grande partie des campagnes de France qui sont très conservateurs et qui sont pour la reconstruction de quelque chose de probablement monarchique. Et puis de l'autre côté, vous avez tous ceux qui, notamment dans les grandes villes et spécialement à Paris, veulent l'avènement d'une république, bien entendu. Le siège de Paris a révélé dans la population des velléités républicaines vraiment très très fortes. On considère le gouvernement comme une bande de capitulars. Le 15 février, la garde nationale, donc l'armée bourgeoise de Paris, va créer un comité central avec des délégués dans chaque arrondissement et on crée une fédération républicaine de la garde nationale pour s'assurer de la forme républicaine du futur gouvernement. Vous voyez donc qu'il y a une opposition extrêmement forte sur un plan politique qui naît de ce siège de Paris et plus généralement de ce conflit de 1870. Le 11 mars 71, l'Assemblée, qui avait été élue et qui donc siégeait à Bordeaux, décide de se rapatrier, mais pas à Paris, car les bourgeois de l'Assemblée n'ont pas du tout l'intention de se confronter à ces têtes chaudes de Parisiens. Ils s'installent prudemment à Versailles. Ça, c'est très mal vécu à Paris, bien entendu. L'Assemblée adopte d'autant plus mal vécu qu'elle adopte immédiatement une série de mesures qui va mettre le feu aux poudres. On suspend notamment le fameux moratoire sur le paiement des loyers non acquittés pendant la guerre. C'est-à-dire qu'évidemment, étant donné les circonstances, on avait suspendu les loyers. Et d'un seul coup, on dit aux gens, non, maintenant il va falloir le payer, votre loyer, c'est terminé là. Et de la même façon, on refuse, enfin quand je dis on, le gouvernement et la majorité à l'Assemblée refusent de proroger l'échéance pour le règlement des effets de commerce. Donc tout ça crée une très forte tension, d'autant plus qu'on supprime les indemnités des gardes nationaux. Ça, c'est très très mal perçu, bien entendu. La population parisienne a beaucoup souffert pendant le siège, elle a été très, très affaiblie. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi pour devenir gardes nationaux et lorsqu'on leur dit « vous ne serez plus payés », évidemment, ils sont furieux. Ultime affront, lors de la signature de l'armistice, les vainqueurs avaient obtenu le droit de défiler dans la capitale. Et le 1er mars 71, on a vu 30 000 Allemands défiler dans cette ville en deuil. Il faut imaginer les grands monuments, les fontaines, etc., couvertes de voiles noires. Eh bien, ça a été un traumatisme supplémentaire pour les Parisiens. Or, les Parisiens s'étaient cotisés pendant le siège pour, ils avaient fait une souscription, une grande souscription, pour fondre un certain nombre de canons. Sur les 227 canons de défense de Paris, il y en avait 200 qui étaient le fruit de cette souscription. Au moment de l'entrée des Allemands pour le grand défilé de leur victoire, inutile de vous dire qu'on a mis les canons à l'abri. On les a placés en haut de la butte Montmartre sous la protection des fameux fédérés. Un des fédérés écrit « Les pièces de canon sont notre propriété, nous les avons payées, nous ne voulons pas la guerre civile, mais si on cherche à nous enlever nos canons, nous brûlerons plutôt Paris que de nous laisser vaincre par ces bandits. » Il y a un peu l'état d'esprit. Jules Favre, qui avait combattu avec force l'exigence des Prussiens de désarmer la garde nationale, les comprend, bien entendu. Bismarck avait dit « Vous faites une bêtise », il parlait à Jules Favre. « Tôt ou tard, il vous faudra compter avec les fusils que vous avez l'imprudence de laisser à ces exaltés. » C'est peut-être embêtant à dire, mais je pense que Bismarck n'avait pas tort sur cette affaire. C'est-à-dire qu'on a armé, pour ne pas dire même surarmé la population. Un jour ou l'autre, ça a des conséquences. Alors, le 18 mars au matin, les habitants de Paris découvrent sur les murs, sur les portes des bâtiments publics, etc., des placards, hein, des affiches, si vous voulez, jaunes, sur lesquelles on peut lire « Habitants de Paris, depuis quelque temps, des hommes mal intentionnés sous prétexte de résister aux Prussiens qui ne sont plus dans vos murs se sont constitués les maîtres d'une partie de la ville. Les canons dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux et pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison, le gouvernement compte sur votre concours. » Ça passe très mal, ça, évidemment. La butte Montmartre est envahie. Alors d'un côté, vous avez l'armée régulière, hein, c'est le général Lecomte avec son bataillon de chasseurs, ainsi que le 88e de marche qui se met en position. Et de l'autre côté, vous avez les Parisiens eux-mêmes, enfin ceux qui les plus révoltés, disons, qui viennent également faire acte de présence. Et pendant ce temps, évidemment, on voit un certain nombre de fédérés, des déserteurs de l'armée, etc. Tous ces gens-là essaient de parlementer avec les soldats réguliers. On va finir par s'emparer des deux généraux qui sont Lecomte et Clément Thomas, responsables de massacres en juin 1848. Donc ça, la foule se le rappelle. Ils sont conduits dans une maison de l'actuelle rue du Chevalier de la Barre, qui s'appelait à l'époque la rue des Rosiers, sur la butte Montmartre. Et là, on les fusille. Vous imaginez, même Clémenceau, qu'on ne peut pas suspecté d'être un très grand ami de Thiers, est complètement sidéré de ce qu'il voit. Clémenceau est le maire de Montmartre à l'époque, tout jeune maire. Il dit qu'il a affaire à une meute de fous agités. Ce qui est en train de se passer, c'est le début d'une insurrection. Une insurrection dans cet air de printemps si doux, tellement doux.
Extrait du temps des cerises. On écoutait Jean-François Novelli et les Lunésiens. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la Commune de Paris en 1871.
Cette insurrection, vous l'avez bien compris, à cause des canons qui ont été le facteur déclenchant, est en train de se répandre. Elle descend, si je puis dire, du nord de la capitale, s'approche dangereusement de la Seine. Le président, enfin le chef de l'exécutif Thiers, qui est installé au Quai d'Orsay, comprend très bien le danger. Donc d'abord, il fait rapatrier l'ensemble des troupes légalistes, hein, des troupes régulières de l'armée sur la rive gauche. Et puis on organise le grand exode. Hein. C'est le moment, c'est vraiment le sauve-qui-peut. Là, tout le monde doit être parti en l'espace de 4 heures. Vous imaginez, quand je dis tout le monde, c'est la Banque de France, les corps constitués, le corps diplomatique, toute une partie de la haute bourgeoisie de gouvernement et de la fonction publique, bien entendu, les états-majors, les hauts fonctionnaires. Enfin, tout ce monde-là prend la direction de Versailles. Quand je dis de Versailles, c'est en partie du château de Versailles dont on va littéralement prendre possession. On installe des lits de camp, on s'installe comme on peut. C'est un campement de la haute fonction publique et de l'élite française qui va s'installer comme ça dans le château de Versailles, dans un certain nombre de dépendances du château, à la préfecture où s'installe Thiers, entre parenthèses, dans les meubles de l'ancien roi de Prusse devenu empereur d'Allemagne. Vous voyez comme c'est bien perçu ça aussi. Bref, c'est un exode complet et entre-temps, sur place à Paris, dans la nuit du 18 mars, 30 membres du comité central de cette commune de Paris s'installent à l'hôtel de ville. Il est question d'organiser tout de suite des élections. En attendant, le comité organise, alors il suspend les journaux, on arrête un certain nombre d'opposants qui sont restés. Une quinzaine de gardes nationaux considérés comme bourgeois sont même fusillés pour avoir montré leur soutien au gouvernement de Versailles. Vous voyez qu'on rigole pas du tout. Et le 26 mars, les électeurs sont convoqués avec une participation qui n'est pas ce qu'on aurait pu imaginer. 229 000 votants sur les 485 000 inscrits. Enfin, c'est pas si mal du tout, évidemment. Et le résultat, alors là, c'est un résultat révolutionnaire, disons-le. La révolution à la majorité. Quelques modérés sont élus, ils quitteront l'hôtel de ville quelques jours plus tard, mais pour l'essentiel, évidemment, ce ne sont pas du tout des modérés qui prennent le pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Le 28 mars, sur le parvis de l'hôtel de ville, c'est la liesse. Les artisans, les ouvriers, un certain nombre d'intellectuels se sont réunis pour assister à la proclamation officielle de ce qu'on appelle donc la commune. Il faut imaginer une centaine d'hommes portant l'écharpe rouge qui sont là, face à la foule, tous les membres du comité central, les nouveaux élus, etc. C'est le maire de Belleville, Gabriel Ranvier, qui va prendre la parole et il déclare simplement « Au nom du peuple, la commune est proclamée ». Et c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, ce qui est en train de se passer, évidemment. Voilà ce qu'écrira Albert Olivier. Il dira « Plus qu'une joie, une espérance immense, bouleversante, étreignant les spectateurs debout sur la place, penchés aux fenêtres, qui communiaient comme ils n'avaient pas pu le faire depuis longtemps. La victoire était resplendissante, une fraternité qui n'aurait cru que tout devenait possible. » Il faut bien vous dire que dans ces moments-là, on en a connu un certain nombre dans l'histoire de France en général et dans celle du 19e siècle tout particulièrement, dans ces moments-là, tous ceux qui se considèrent comme frustrés, comme opprimés, comme déclassés, comme mécontents ou malcontents, d'un seul coup, voient s'ouvrir devant eux des horizons qu'ils s'imaginaient impossibles. Et donc, il y a s'engouffre dans la brèche, si je puis dire, une espèce d'élan d'espoir qu'on voit dans toutes ces révolutions, qui très souvent est trahi du reste. Mais enfin, en attendant, il y a cette espèce de moment assez extraordinaire, un enthousiasme d'apprendre simultanément que Marseille, que Toulouse, Toulon, Narbonne, Saint-Étienne, Lyon, Limoges, etc. emboîtent le pas de Paris. Alors, certains mouvements seront très courts, hein, 3 jours à Toulouse, ça sera vite écrasé par les troupes régulières. Mais enfin, néanmoins, il se passe quelque chose dans le pays et bien sûr d'abord à Paris. Le préfet de police devient le procureur de la commune, c'est Raoul Rigaud. Ancien étudiant de médecine, nous dirait André Castelot, licencié S-Sciences et S-Lettres, sale, hirsute, postillonnant, lyrique, hargneux, anticlérical. Il a 3 dieux, Hébert, Chaumette et Saint-Just. Comme ça, les choses sont dites. C'est bien la révolution qu'on est en train de vouloir réimplanter. Hein. On rapporte un entretien qu'il a eu avec un prêtre qui s'est fait arrêter. Alors, ce bonhomme, là, Rigaud, dit « Alors, quelle est votre profession ?»« Serviteur de Dieu, répond le prêtre. Où habite votre maître ?»« Mais partout !» Rigaud se retourne vers son greffier. « Écrivez, se disant serviteur d'un nommé Dieu qui, du propre aveu de l'inculpé, est en état de vagabondage. » Bon, ça c'est pour la note d'humour, mais évidemment, il se passe des choses incroyable dans le Paris de l'époque. Alors, pour vous donner une idée, certaines mesures sont complètement démagogiques, hein, faut quand même le dire, mais on accorde un moratoire de 3 ans pour le paiement des dettes, par exemple. Alors, pour tous les gens qui avaient des dettes et tout, ça paraît complètement inespéré. On supprime purement et simplement le budget des cultes. L'enseignement religieux est considéré comme contraire au principe de la liberté de conscience, avec une première séparation d'église et de l'État, s'il vous plaît. On va fermer, bien sûr, les églises. On confisque tous ces biens qui sont mis à la disposition de la nation. Entre parenthèses, on va un peu vite en besogne parce que jusqu'à preuve du contraire, la commune de Paris ne représente pas la nation, mais c'est ce qu'elle entend faire. C'est bien comme ça qu'elle se considère, en tout cas. Les journaux, je vous l'ai dit, sont pour un temps suspendus. On procède à 437 arrestations politiques. Et puis, et ça nous amène au sujet qui nous intéressera dans la deuxième partie de cette émission, on commence à ordonner un certain nombre de démolitions. Alors on démolit la chapelle expiatoire qui commémorait la mort de Louis XVI, quand même, vous rendez compte, entre parenthèses. On envisage, on n'en est pas encore là, mais ça va venir, de démolir la célèbre colonne Vendôme, avec Napoléon à son sommet, bien entendu, et toutes ses victoires de l'Empire sur les flancs de la colonne. Et puis, on va démolir la maison de Monsieur Thiers. On se rend dans ce qui est aujourd'hui le 9e arrondissement de Paris, là-haut sur la butte, au pied de Montmartre. Et on va détruire la maison de Thiers. Thiers qui est l'ennemi, évidemment, qui est l'adversaire absolu de la commune. Thiers qui est considéré, si j'ose dire, dans cette commune très anticléricale, comme le diable. Thiers qui va bientôt avoir raison du mouvement.
Franck Ferrand, 14h-15h. Sur Europe 1.
La révolte populaire de 1871 est au cœur de l'histoire. Vous évoquez, Franck Ferrand, la Commune de Paris.
Oui, c'est même un peu plus qu'une révolte. On peut parler là d'une révolution qui concerne essentiellement Paris. Inutile de vous dire qu'à Versailles, le gouvernement officiel et le président, enfin le chef Thiers, ne restent pas bras croisés. Ils organisent bien entendu la reprise de la capitale avec une première offensive le 2 avril. Ils prennent Courbevoie. Ils s'avancent du côté de Neuilly en direction des Ternes. Vous voyez que tout l'ouest de Paris commence à être directement menacé par ce qu'on appelle les Versaillais, c'est comme ça qu'on va les appeler. On imagine que les boutiques baissent hâtivement le rideau. Les fédérés ont tendance à se replier un peu vers l'est de la capitale à ce moment-là. Et la riposte des Parisiens va s'organiser. Florence perd la face à Rueil et va se replier vers Chatou où il est arrêté. Le même jour, un autre chef de colonne est arrêté à Châtillon. Tous deux sont fusillés. Et là, c'est l'exaspération totale. Rigaud est hors de lui. Il déclare que pour chaque Parisien exécuté, quand il est Parisien, communard, hein, devrait-on préciser. Trois otages versaillais en paieront le prix et on décrète que tous les Parisiens entre 17 et 35 ans qui ne sont pas à charge de famille, qui ne sont pas mariés, vont devoir participer au combat. Alors on essaie par tous les moyens d'échapper à l'obligation. Les plus romanesques franchissaient le rempart la nuit avec des échelles de corde, écrit Alphonse Daudet. Les plus hardis se mettaient à 30 pour prendre une porte d'assaut. D'autres plus pratiques s'en tiraient tout bonnement avec une pièce de 100 sous. Début mai, les Versaillais avance sur Paris. On les voit prendre les forts de Clamart, d'Issy, de Vanves, je dis les forts, c'est toute cette ligne de fortification qui, et ça c'était un paradoxe, avait été conçue par Thiers lui-même, figurez-vous, en 1840. Le 21 mai, les hommes de Thiers vont faire tomber la porte de Saint-Cloud. Ça, c'est une étape décisive. Le chef de l'exécutif et une partie du gouvernement sont sur les hauteurs de Montretout, observant les colonnes comme de longs serpents noirs, écrira Thiers, qui avancent dans la capitale. Et en fin de journée, le 15e, le 16e arrondissement sont déjà repris par les Versaillais, qui avancent de plus en plus, qui ne rencontrent que peu de résistance. Et en fin de journée, ils ont pris Montparnasse, les Invalides, le Palais Bourbon, Saint-Lazare. Inutile vous dire, j'ai l'air de raconter une promenade de santé, c'est pas du tout le cas, bien entendu. Paris est à feu et à sang. Les fédérés se sont organisés, ils ont monté plus de 500 barricades qui bouclent littéralement tous les quartiers est. Et ils vont jouer leur dernière carte. Cette carte, c'est celle qui nous intéresse, c'est la carte du feu. Alors, je vous présente là une version qui n'est pas reprise par Nicolas Chaudin, en tout cas pas entièrement. On va en parler avec lui dans un instant. Il y a ces deux visions, en quelque sorte, qui sont toujours présentées. D'un côté, la vision versaillaise qui dit que ce sont les communards qui ont mis le feu au grand monument de Paris en signe de représailles ou de désespoir. Et puis de l'autre côté, vous avez les héritiers de la mémoire communale qui, eux, vous disent que ce sont les Versaillais qui ont attisé les cendres et qui ont hâté le désastre. On verra ce qu'il faut penser de tout ça, mais sachez qu'en tout cas, au petit matin, les principaux bâtiments administratifs qui avaient été bourrés de poudre et arrosés de pétrole crachent des flammes jusqu'au ciel. L'hôtel de ville, le quai d'Orsay, le palais de la Légion d'honneur, le palais de justice, la cour des comptes, la bibliothèque du Louvre, vous imaginez, la bibliothèque qui est directement reliée aux Tuileries, et puis le palais des Tuileries, ça évidemment, tout ça est en train de brûler. La journée du 24 mai est décisive. Thiers avait déclaré « Je serai impitoyable ». Il l'est. Et ces hommes, ces soldats là, qui sont en train de casser du Parisien, si je puis dire, et qui pour la plupart sont des gens qui arrivent de toutes les provinces et qui de toute façon détestaient Paris et les Parisiens, s'en donnent, à, j'allais dire à cœur joie en tout cas, sont d'une grande brutalité. On massacre à tour de bras. Rigaud observe tout ça posté à la fenêtre d'un hôtel de la rue Gay-Lussac. Et il a un œil sur les barricades de la rue Soufflot, hein, l'autre sur celle de la rue Gay-Lussac. Et quand les deux postes sont pris, il décide de se rendre. Alors il va avancer vers les Versaillais. « Me voilà, c'est moi », dit-il. En réalité, personne ne sait à qui on a affaire. On l'emmène au Luxembourg, mais sur le chemin, un colonel qui est intrigué par la tenue du prisonnier, une tenue bleue à col et revers rouge, lui demande de décliner son identité. « Je suis Raoul Rigaud, procureur de la Commune de Paris. »« Ah, eh bien, criez à bas la Commune. Vive la Commune, à bas les assassins !» répond Rigaud. C'était une dernière bravade. Il est tué d'une balle à bout portant. On peut dire que c'est l'une des principales figures de l'insurrection qui s'effondre finalement. La dernière barricade, celle de la rue Ramponneau, tombera à 1h de l'après-midi, le dimanche 28 mai 1871. Et à partir de là, la répression sera terrible. Répression atroce, écrira André Castelot, inhumaine, monstrueuse. On fusilla tous ceux qui portaient une vareuse, un pantalon ou même une paire de chaussures appartenant à la garde nationale. On fusilla des femmes accusées d'être des pétroleuses parce qu'on trouva sur elles des allumettes ou un rat de cave. On fusilla tous ceux qui semblaient italiens, polonais, hollandais ou allemands. On fusilla des blessés dans les hôpitaux. On fusilla des mères en train d'allaiter leur dernier né. On fusilla des femmes qui bavardaient sur le pas de leur porte ou la porteuse de pain qui passait au même instant, on fusilla pour fusiller. De grands procès auront lieu par la suite, bien entendu, ces procès des communards, avec des résultats d'ailleurs assez contrastés. Ce qui va nous intéresser, c'est ce moment décisif de la semaine sanglante et bien entendu, le grand incendie de Paris avec toutes ses conséquences.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La Commune de Paris au printemps 1871 est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'historien et écrivain Nicolas Chaudin, auteur du livre Le Brasier, le Louvre incendié par la Commune, paru chez Actes Sud.
On sait que Paris a été un peu bombardé pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, je dis un peu, il y en a encore qui vont dire c'est toujours trop. Il a été bombardé, disons, que la ville a échappé au pire au moment de la libération en 1944. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a eu cet incendie extraordinaire. Donc pendant les événements de mai 1871, et il faut imaginer un certain nombre de familles de Versaillais, comme on disait, hein, des gens qui étaient autour de Thiers, qui venaient s'installer sur les hauteurs de l'ouest parisien pour voir flamber littéralement la capitale. Bonjour Nicolas Chaudin.
Bonjour.
Ça a été sans doute le plus grand péril pour la ville de Paris en dehors des travaux d'Haussmann, mais ceux-là ils avaient été décrétés.
C'est-à-dire que effectivement en une nuit Paris s'est embrasé. Alors évidemment, ces incendies ont été longuement commentés après la fin de la semaine sanglante et les héritiers de la Commune ont tenté de les justifier et les fossoyeurs de la Commune, eux, ne l'ont trouvé évidemment aucune justification. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a prétendu que les incendies de la Commune avaient été allumés par les communards pour répondre aux massacres perpétrés par les Versaillais. Et les Versaillais déclarant pour leur part qu'ils n'avaient effectivement massacré des prisonniers que parce que ceux-ci avaient été coupables d'incendier la plus belle ville du monde. En fait, il n'en est rien. Les deux phénomènes sont concomitants. Les soldats de Versailles avaient bien en tête qu'ils fusilleraient quiconque serait pris les armes à la main. Et en revanche, les communards avaient prévu cet incendie, car dès le 16 mai, un certain nombre de matières combustibles, d'explosifs, sont rassemblés dans des monuments qui ne sont pas en soi des lieux stratégiques, mais qui sont seulement des symboles du pouvoir monarchique ou impérial, des symboles de l'oppression fiscale, et ainsi sont menacés de destruction l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, l'hôtel de Salme qui abrite le musée de la Légion d'honneur, etc., etc.
Alors quand vous dites etc., etc., il faut faire un peu l'inventaire des monuments détruits, bien entendu. On va garder les Tuileries et bien sûr le Louvre attenant pour pour la fin, parce que c'est le cœur de ce qui nous intéresse, mais il y a beaucoup de monuments, hein, le palais d'Orsay, par exemple, oui. Avec les grandes...
Avec les décors de Chassériau.
Oui, c'est ça, de Chassériau.
Qui avait été construit sous Louis-Philippe, qui était un magnifique palais d'État.
Où s'était installé Thiers, juste avant de partir pour Versailles.
Voilà, le palais d'Orsay, évidemment, qui est aujourd'hui remplacé par la gare, hein, la gare d'Orsay. L'hôtel de Salm, on l'a dit, sur la rive droite, le palais royal. Bon, toute une partie de la rue royale elle-même a été incendiée.
Les centres de pouvoir, il n'y avait pas seulement les symboles au sens décorum, il y avait aussi les centres actifs de pouvoir. Je pense à la préfecture de police, à l'hôtel de ville, etc.
Voilà, la préfecture de police qui était en fait à la place de notre actuel palais de justice. Mais enfin, d'autres monuments strictement symboliques ont été menacés ou allumés. C'est le cas de Notre-Dame, parce qu'on oublie
la cathédrale Notre-Dame de
Paris. Voilà, on oublie que dans la nuit du 24 au 25, un certain nombre de fuyards communards ont rassemblé tout ce qui pouvait brûler à la croisée du transept, c'est-à-dire les bancs de messe, les missels, les chasubles du revestiaire, les tapisseries de la nef. Ils ont rassemblé tout ça en un formidable échafaudage et l'ont allumé avec l'espoir qu'il fragiliserait les voûtes du transept. Tout ça a été éteint immédiatement par les gens du quartier et par les infirmiers de l'Hôtel Dieu, mais l'Hôtel Dieu lui-même était menacé d'un incendie. Bon, on pourrait décliner le mobilier national a été incendié,
oui,
la bibliothèque,
enfin, les
gobelins, l'arsenal a été incendié, enfin tout un tas de monuments.
L'arsenal avec ses collections de.
Alors la bibliothèque en partie a miraculeusement échappé à l'incendie, mais la totalité du pavillon, lui, a été.
Pourquoi le théâtre Saint-Martin, par exemple?
Alors, quand il s'adresse à l'international socialiste, Marx en juin. C'est-à-dire peu après la fin de la semaine sanglante, justifie, lui, les incendies en expliquant qu'ils avaient une vertu stratégique et qu'ils visaient à retarder l'avancée des Versaillais. Dans l'ensemble, c'est complètement faux. Il n'empêche que un des responsables de la commune, Delescluze, délégué à la guerre,
bien sûr, oui.
Delescluze avait ordonné en effet qu'on allumât les maisons qui encadraient les barricades, de manière à retarder leur franchissement par les soldats versaillais. Ça s'est produit 4 ou 5 fois dans toute la semaine sanglante, notamment rue Saint-Honoré, et le théâtre Saint-Martin, lui, a pris feu parce qu'il était au milieu d'un dispositif de barricade âprement défendu et que lorsque les communards ont décroché, ils ont mis le feu à tous les immeubles qui supportaient ces barricades, et le théâtre Saint-Martin a fait les frais de cette opération. Mais dans l'ensemble, les monuments que nous avons évoqués tout à l'heure n'avaient aucune espèce de vertu stratégique et les Tuileries pas plus que les autres.
C'est quand même très déroutant, hein, toute cette affaire, il faut le dire. On essaie de rester calme, d'essayer de juger le pour et le contre, de se mettre des deux côtés, bien entendu. Mais quel est l'objet d'abord? Qui sont les incendiaires? Est-ce qu'on peut définitivement dire, eh bien oui, je connais les coupables?
Oui, pour certains monuments, on connaît les incendiaires. On sait que c'est Eudes qui a mis le feu à l'hôtel de Salm, qui abrite la chancellerie de la Légion d'honneur. On sait que c'est ce crétin de Bergeret qui a mis le feu aux Tuileries. Je dis ce crétin de Bergeret parce que c'est un personnage extrêmement pitoyable.
Ah oui.
Pindy a mis le feu à l'hôtel de ville. Bon, on connaît certains noms. Mais même si certains d'entre eux ont été préparés, même si certains d'entre eux ont été prévus, ces incendies ont été déclenchés sous une pression épouvantable, dans une atmosphère complètement enfiévrée. Une atmosphère de fin du monde, une fin du monde promise par les communards aux Versaillais s'ils entraient en ville. Il faut s'imaginer un peuple qui se déchire, une haine qui frappe le frère, la sœur, le père, tout ça est un dérèglement, mais de part et d'autre. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que la commune a donné lieu à tant d'interprétations farfelues sur le mode psychiatrique, si vous voulez. Mais il y a effectivement une espèce de dérèglement social dans lesquels ces incendies finalement ne sont qu'un incident, un dommage collatéral. Mais on peut rappeler à cette occasion quand même que la France a donné de nombreux exemples de flambées iconoclastes comme ça. À chaque fois que les Français se tapent dessus, et malheureusement c'est très fréquent dans notre histoire,
oui, croisons les doigts.
Voilà, ces guerres civiles se soldent par des destructions iconoclastes symboliques, particulièrement ravageuses et dommageables pour notre patrimoine artistique.
Oui. C'est-à-dire que les Français ont la révolution dangereuse, si je puis dire.
Hein, exactement. C'est... Il y a des gens qui ont l'alcool mondain, les Français, à la révolte funeste.
Funeste, oui. Funeste pour le patrimoine, en l'occurrence. Alors, il y a le cas des Tuileries, qu'on connaît bien. Il faut toujours préciser que les Tuileries ont été brûlées, mais pas rasées du tout par l'incendie en question. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'incendie, au printemps 1871, les Tuileries sont toujours debout. Les murs sont un peu noircis, les huisseries ont brûlé, évidemment. Il y a beaucoup de planchers qui se sont abattus et des escaliers aussi, mais globalement, le palais est toujours debout. Il faudrait d'ailleurs assez peu de travaux pour le remettre en état. Comment expliquer qu'il n'existe plus aujourd'hui ?
Parce qu'il y a une deuxième mort des Tuileries. Bon, les Tuileries, l'hôtel de ville, l'hôtel de palais d'Orsay sont des monuments qui auraient pu être relevés du sinistre. Bon, sans que ce soit facile pour autant, à part le palais d'Orsay, qui était un palais assez neuf, il n'avait qu'une trentaine d'années, le palais d'Orsay, quand il a brûlé, était tout à fait récupérable. Du reste, un certain nombre de toiles marouflées de chasseriaux qui ornaient le grand escalier sont conservées au musée d'Orsay. Elles ne sont pas présentées au public, mais elles sont conservées dans leur état de délabrement, évidemment, mais elles sont encore là. C'est vous dire que là, c'était vraiment sauvable. Les Tuileries, il était encore parce que, effectivement, les murs étaient debout. Il ne restait rien, évidemment, des huisseries, des planchers, des toitures, etc. Et le palais avait été, de toute manière, fragilisé par le sinistre. Mais restaient ces murs, qui brandissaient leurs croisées vides, comme ça, sur un palais du Louvre miraculeusement épargné. Et donc, la République s'implantant, vous l'avez dit tout à l'heure, on a longtemps hésité entre un régime monarchique et la République, une fois que celle-ci est confortée, une fois que celle-ci est affermie,
au début des années 1880,
voilà, on décide de se débarrasser de ce symbole monarchique que sont les Tuileries.
Mais qui constitue une ruine au milieu de la ville quand même, parce que pour l'instant...
Une ruine au milieu de la ville, et il faut savoir que pendant l'exposition de 1878, pour laquelle on s'était empressé de gommer les stigmates de la guerre civile, il restait ce palais royal.
Et les touristes d'ailleurs venaient voir ça. Quand on demandait aux gens qu'est-ce que vous voulez visiter, ils voulaient voir les ruines des Tuileries.
Tourisme des ruines d'ailleurs qui s'est généralisé dès le lendemain de la Commune. Hein. Il y avait des étrangers qui voulaient voir Paris en ruine fumante. Et il y avait des petits bonshommes qui, moyennant quelques sous, vous guidaient sur l'état de cendres.
Alors, vous nous dites que le Louvre a été miraculeusement conservé. Il y a eu quand même des artisans de ce miracle, des anges gardiens. C'est à eux que nous venons maintenant.
Il y a 100 ans, comme une, comme un espoir mis en chantier, il se levait. Il y a 100 ans, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot pour défendre Paris. Ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans.
Jean Ferrat en 1971 sur Europe 1, on écoutait un extrait de sa chanson La Commune de Paris et le Louvre incendié en 1871 sont au cœur de l'histoire. Votre invité Franck Ferrand, l'historien et écrivain Nicolas Chaudin, auteur du livre Le Brasier, le Louvre incendié par la Commune chez Actes Sud.
Oui, Jean Ferrat qu'on vient d'entendre écrivait sa chanson pour le centenaire de la Commune avec énormément de trémolos dans la voix, si je puis dire. Il ne faut pas oublier que cette Commune, elle est devenue ensuite l'emblème de d'un certain nombre de révolutionnaires, du communisme. Évidemment que les Russes de la révolution de 1917 s'inspirent directement de la Commune.
Oui, en fait, c'est la première tentative de révolution sociale, d'installation d'une république sociale. Bon, il y a effectivement beaucoup de références à la Commune, mais on va dire que son naufrage tragique et le romantisme qui l'environne ont beaucoup fait pour sa postérité. Néanmoins, sa postérité est très ancrée dans les esprits, au point qu'il est très difficile aujourd'hui de parler de la Commune. Vous êtes immédiatement estampillé Versaillais si vous émettez un doute.
C'est courageux en fait d'écrire le livre que vous avez écrit, parce qu'évidemment, ça n'est pas très bien vu de dresser le bilan, si je puis dire.
Il est très difficile de parler objectivement et de présenter un discours objectif sur un événement pareil. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis efforcé d'aller chercher mes renseignements auprès de sources objectives.
Quelles sont-elles les sources, justement?
Alors, je ne veux pas toutes les citer parce qu'il y en a tout
un appareil. Bien sûr, oui. Voilà.
Mais par exemple, j'ai fait quelque chose d'assez intéressant. Je suis allé à la caserne des sapeurs-pompiers de Paris étudier tous les rapports d'intervention.
Par exemple, j'allais dire tout simplement, mais
tout
fallait
simplement,
y penser.
Mais que
vous dire que vous avez fait votre service dans les pompiers, vous donc.
Jamais.
Non, c'est pas vrai.
Non, pas dans les pompiers. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ce qui était fascinant, c'est que ces archives n'avaient jamais été touchées. Elles avaient été rentrées dans les cahiers en juillet 71 et plus personne ne les avait. Bon, il n'y a pas plus objectif. Ça vous donne l'heure, l'étendue du sinistre, l'état du monument une fois qu'on a éteint l'incendie, enfin, etc., etc. Bon, il n'y a rien à dire. Et on arrive à voir le mouvement aussi de l'incendie par son déclenchement dans le temps, par son déclenchement dans l'espace. On arrive à comprendre comment cet engrenage a pris de l'ampleur en deux nuits, etc.
Et donc, vous retracez les différents les sources, les foyers, on va dire, d'incendie, et vous nous parlez du monument qui est le plus en danger, c'est-à-dire le musée du Louvre. Alors, qui n'est pas encore tout à fait le musée du Louvre tel que nous le connaissons, bien entendu. Les murs sont ceux du Louvre, ça, évidemment. Mmh. Les collections ne sont pas les mêmes. Et notamment, une partie des collections avait été mise à l'abri, il faut le dire.
Oui, ça, c'est une aventure assez extraordinaire. Dans les derniers jours de l'Empire, alors qu'on se prépare à la bataille de Sedan, qui, comme vous le savez, sera décisive et tragique pour la France, l'impératrice et le ministre de la maison de l'empereur, Vaillant, le maréchal Vaillant, décident l'évacuation des plus grands chefs-d'œuvre du Louvre. Et pour ça, préviennent le surintendant des Beaux-Arts, qui est Neuerkerk, le comte Neuerkerk. Et en trois jours, sans que personne dans Paris ne s'en rende compte, en gardant un secret le plus absolu autour de cette opération, Neuerkerk va faire évacuer 300 tableaux vers Brest, en train, alors que tous les trains sont mobilisés pour acheminer des troupes vers Sedan.
Un exploit incroyable.
Un exploit incroyable. Et partent ainsi 300 tableaux qui sont entreposés à Brest, avec pour destination finale New York, au cas où les Prussiens dépasseraient la ligne, grosso modo, Mayenne-Morbihan. Et en embarquant sur le dernier navire école de la marine impériale. Une chose extraordinaire, rocambolesque en fait. Donc le Louvre est en partie vidé, il est vrai. Mais le Louvre est quand même un musée énorme, déjà gigantesque, dont Napoléon III a doublé la capacité d'accueil et surtout les surfaces d'exposition. Et ce qu'on a complètement oublié, c'est que si les Tuileries ont brûlé, les bras du Louvre, qui partent depuis le pavillon de Flore au sud et de Marsan au nord, ont brûlé également jusqu'au guichet, c'est-à-dire cette espèce de porte que l'on franchit en voiture, mm-hmm. Qui nous permet de traverser...
D'aller vers la Seine ou vers le Palais Royal.
Eh bien, le palais a brûlé jusque-là. Et en plus de cela, dans la nuit au cours de laquelle on a incendié les Tuileries, des communards en fuite ont mis le feu à la bibliothèque impériale qui, elle, se trouve dans le prolongement du pavillon de Richelieu qui donne aujourd'hui directement sur la pyramide de Peille. Donc, vous comprenez que ce pavillon de Richelieu et l'aile qui le poursuit sont au cœur du dispositif palatial du Louvre. Eh bien, cette bibliothèque a été incendiée, elle comprenait 80 000 volumes extrêmement précieux, des recueils de dessins, des bulles du pape datant des 7 ou 8e siècle, des manuscrits enluminés, des documents historiques extraordinaires comme par exemple toutes les dépenses pour la famille royale au temple, le recueil des dépenses. Mmh. Tout ça a brûlé en quelques heures, parce qu'évidemment allumer une bibliothèque c'est assez facile. Et donc
ça brûle bien le papier.
Ça brûle très bien. Et donc... non seulement les bras du Louvre brûlent, mais le cœur même du palais est menacé par cet incendie de la bibliothèque.
On a perdu donc des trésors, hein, au passage, là, quand même.
Au passage, on a perdu des trésors. Un exemple, hein, si vous me permettez, mais par exemple, Claude Perrault, l'architecte de la colonnade du Louvre.
Le frère de Charles.
Voilà, architecte de l'Observatoire également. Tous les dessins d'architecte de Claude Perrault étaient réunis dans un grand marocain qui était dans la bibliothèque impériale. Il a brûlé les fleurs de Redouté. Redouté, ce célèbre peintre de fleurs, avait laissé là des recueils de roses de quelques 600 planches sur vélin qui ont brûlé. Et des originaux d'Audubon, un peintre
irréparable,
d'oiseaux.
Faut dire.
Irréparable.
Alors, il y a là deux personnages qui sont vos héros, si je puis dire, que vous avez sortis de l'ombre, il faut bien le dire.
Oui.
Alors d'abord, il y a un conservateur du musée, il faut expliquer qui il est.
Alors, il s'appelle Barbedjoui et la rue qui porte son nom ne porte pas exactement son nom, elle porte plutôt celle de son père. Lui, c'est un personnage qui est vraiment passé un peu dans les trappes de l'histoire. Barbedjoui est un sexagénaire, un jeune sexagénaire extrêmement conservateur, bonapartiste, ami de Neuerkerk, avec une longue barbe blanche, une corpulence un petit peu étalée comme ça, confie dans ses notices de catalogue. Ça n'a rien d'un héros.
D'action, a priori,
non, non,
hein.
Ça n'est pas un Indiana Jones en puissance. Et pourtant, cet homme, pendant 12 heures, va jouer le rôle de sa vie avec une autorité tout à fait surprenante, va prendre le pouvoir dans le musée parce qu'il est conservateur au Louvre, mais il est destitué, il tombe sous le coup d'un mandat d'arrêt,
oui.
on l'a confiné dans son bureau, et nuitamment, cet homme va fédérer autour de lui les gardiens du musée et va enfermer à son tour les délégués de la commune, dépêchés par elle pour la conservation du musée du Louvre, il va les enfermer dans un bureau et va prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires. Tout ça avec une fermeté, et je dirais oui, une sorte de fermeté militaire, si vous voulez, qui était absolument insoupçonnable chez lui.
Il est transfiguré par le rôle qu'il a à jouer.
Exactement,
en vérité.
Exactement, hein. Oui, sa fonction, enfin sa mission. Le démultiplie.
Et puis alors il y a Sigoyer, il faut l'expliquer.
Et alors, à l'opposé... parmi les soldats versaillais qui se ruent au cœur de Paris, il y a un commandant de chasseurs, de bataillon de chasseurs.
Bernardi de Sigoyer.
Voilà, Bernardi de Sigoyer, marquis de son état, une espèce de ruffian sorti du rang, économe de la vie de ses hommes, mais extrêmement risqué pour lui-même, adulé, donc un militaire comme en produisait toute la France du 19e siècle et qu'on envoyait par brochette à la boucherie, parce que c'était des types tout à fait courageux, insensibles à la douleur et ignorant le danger. Sigoyer est là, il se rend compte en abordant la terrasse des Tuileries que le musée est menacé, et là il a un geste tout à fait exceptionnel. Quand on sait combien les Versaillais se sont montrés cruels, je dirais même assassins vis-à-vis de leur prison, Sigoyer fait déposer les armes à ses hommes et leur dit « voilà, il y a plus important à faire ». Et il entraîne tout son bataillon dans les étages vers les guichets du Louvre, alors que le palais est en flammes, que la fumée d'abord vous étouffe mais vous aveugle également. Et il fait grimper ses soldats sur les toitures, ils s'y accrochent comme ils peuvent, un peu comme des corsaires à l'assaut du ventre d'un galion, si vous voulez. Et ces types-là, accrochés comme ça, avec des cordes de fortune, vont à coups de piolet, à coups de pied de biche, de marteau, de piquet, vont défoncer la toiture, afin que le feu, au lieu de se répandre sous les combles, happé par le vide des combles, le feu se répande dans les nues, et ainsi va stopper le feu qui menaçait la grande galerie de peinture.
Et ils vont donc sauver...
Ils vont sauver le Louvre.
Le Louvre, et notamment les collections françaises qui étaient restées sur place.
Voilà,
hein,
parce qu'on avait surtout évacué les Italiens et quelques Espagnols, qui étaient à l'époque considérés comme...
Et donc,
tous les Géricault, tous les David, tous les Fragonard, tous les Boucher étaient restés accrochés à leur simèse et étaient directement menacés par l'incendie.
C'est quand même une histoire tout à fait incroyable. Comment êtes-vous tombé sur ces deux personnages ?
En fait, c'est très drôle. Un jour, quelqu'un m'a raconté que la bibliothèque impériale avait brûlé. J'ignorais même jusqu'à l'existence de la bibliothèque impériale. Et ce qui m'avait intrigué dans le récit qu'on avait fait, c'est qu'on m'avait dit que le bibliothécaire avait été enfermé dans sa loge et on lui avait promis de brûler avec ses livres. Oh, ça m'avait intrigué. Je trouve ça d'une cruauté. Forcément, pour un homme qui aime beaucoup les livres, on a un peu de complaisance à l'égard des bibliothécaires. Et donc, j'étais allé fouiller dans les archives. Je m'étais rendu compte que ce bibliothécaire n'avait pas du tout été rôti avec ses livres. Et de fil en aiguille, je suis venu à étudier ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux personnages complètement occultés par l'histoire. Et c'était tellement romanesque, tellement dramatique, si vous voulez, comme construction, que c'était absolument impossible de passer à côté d'un récit pareil.
Oui. On se rend compte qu'en vérité, cette commune a atteint des sommets de dureté des deux côtés. Il y a eu tous ces fusillés, la répression a été sauvage, absolument. Pourquoi est-ce qu'à la limite, on s'en prend aux œuvres d'art? Ça, c'est toujours un mystère. On se reposera la question vendredi à propos de ces monuments qui sont tellement en danger en Syrie, en Irak. C'est toujours surprenant, hein, de voir l'être humain s'attaquer au trésor de la culture.
Bon, l'incendie des collections du Louvre n'a pas été programmé par la Commune. Il faut quand même le dire.
Oui, il faut le dire.
C'est accidentel. Mais dans un pays comme la France, où depuis au moins le règne de Louis XIV, l'art et la politique sont intimement liés, où l'art est instrumentalisé par le politique, ce qu'il a été pendant toute la Renaissance italienne, par les princes, les condottières, etc. Et par le clergé surtout, par l'Église, eh bien, à partir du moment où on se rappelle les rapports étroits qu'il y a entre le pouvoir et les beaux-arts, on peut comprendre que telle ou telle œuvre d'art devienne un enjeu symbolique.
Du pouvoir. Oui, voilà.
C'est le cas de toutes les statues équestres royales sous la Révolution qui ont été mises à bas. Alors on peut comprendre ça, sous cet aspect, et puis savoir qu'en France, beaucoup de ces collections étaient d'origine royale, et qu'à ce titre-là, elles étaient suspectes aux yeux des défenseurs du peuple.
D'ailleurs, il y a un message qui nous arrive via Facebook, une auditrice qui nous dit « On se préoccupe des œuvres d'art et pas de la misère du peuple ». Je trouve que c'est avec des raisonnements comme celui-ci qu'on arrive justement au désastre Exactement. Dont nous sommes en train de parler. Je crois qu'il faut combattre des réactions comme celle de notre auditrice. Nicolas Chaudin, Le Brasier, Le Louvre, incendié par la Commune, aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup et Merci. C'est un livre à recommander.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Michel qui vous interroge cet après-midi, Franck Ferrand, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Alors Michel vous demande, à quand remontent les origines du sceptre royal ?
Du sceptre
du
royal.
Du sceptre Alors, royal.
Le premier souverain qui est porté, enfin qui est reçu un sceptre lors de son sacre, c'est Charles le Chauve, Charles II, en 848. Alors pourquoi un sceptre ? Ben, vous savez, c'est un peu toujours le bâton de commandement, hein. C'est le bâton du berger, si vous voulez, c'est l'emblème antique des dieux. C'est le symbole de l'autorité, d'une certaine manière, autorité sur l'univers, autorité, oui, des bergers sur le troupeau, etc. Et donc des rois sur leur peuple. C'est un symbole, ce sceptre. Alors quand on lui ajoute, ça arrive plus tard, on ne saurait pas dire exactement quand, probablement au XIIIe siècle, on va ajouter une main. Et ça, c'est là ce qu'on appelle la main de justice. Alors c'est une variante du sceptre avec une main en ivoire. Les trois premiers doigts, le pouce, l'index et le majeur, sont levés. Ils représentent respectivement la loi, la raison et la charité. Puis les deux doigts restants sont baissés. Ils représentent la foi catholique. Et au moment du sacre, le roi tient son sceptre de la main droite et sa main de justice de la main gauche. Et on les croise, vous savez, hein, on a vu bien entendu sur les sceaux, sur les grands sceaux, notamment c'est ainsi que sont représentés les rois en majesté dans leur mandorle. C'est un attribut qui symbolise le pouvoir de juge suprême détenu par le roi. Et puis il y a l'orbe. L'orbe, c'est ce globe qui porte une croix, hein, un globe crucifère pour symboliser la domination de la chrétienté sur le monde. En détenant l'orbe, le roi devient en quelque sorte le représentant de Dieu sur terre. Quant à la couronne, je crois déjà, dans le cadre de cette rubrique Retour aux origines, avoir l'occasion de vous parler de cette couronne. Elle est d'origine divine initialement, alors il faudrait remonter à la plus haute antiquité pour voir d'où viennent les couronnes. Elle a longtemps été une couronne ouverte, avec des fleurs de lys dans la monarchie française, bien entendu. Et puis, vous savez que les empereurs utilisant une couronne fermée, le roi François Ier, empereur en son royaume, a voulu avoir la même et c'est l'origine de la couronne fermée des rois de France. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ces ensembles des emblèmes royaux qu'on appelle les régalias.